Le Festival des Nuits de Fourvière présente Veilleurs de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival.
Je vais où ? Je pense que je retourne tranquillement à mon bureau pour fermer la maison, que je prends le temps de dire au revoir au gardien qui va rester toute la nuit sur le site en passant. Et je traverse le jardin du catering, soit dans le noir, soit sous les lumières. Et je me dis que c'est quand même vraiment plus sympa quand il est éclairé.
Élodie Erard, administratrice.
Alors, administratrice des nuits de Fourvière, c'est des tâches très concrètes qui sont tenir un budget, avoir une vue d'ensemble des dépenses et des recettes de tous les services, arbitrer à des moments donnés des choix financiers, avoir un œil sur l'ensemble des personnes dans les services. C'est gérer le RH, gérer les relations avec les délégués du personnel, gérer les demandes de subventions, tous les points juridiques, aussi bien fiscaux, contractuels. En gros, le travail de l'administrateur, si l'administrateur il a bien fait son travail, en principe, il n'a pas de travail pendant le festival, parce que c'est organiser le moment où le festival va avoir lieu. Pendant le festival, j'ai, à mon sens, un seul travail, enfin deux tâches principales. J'ai la tâche un peu ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que quand il y a un problème qu'on ne sait pas comment résoudre, ça arrive en général chez moi. Et après, pour moi, le festival, c'est faire attention aux gens qui font attention aux gens. C'est-à-dire que l'intégralité des équipes ici sont là pour s'occuper des spectateurs, des artistes, des partenaires entreprises. Et personne ne s'occupe des gens qui s'occupent des gens. Voilà. Donc, mon rôle, c'est de m'occuper des gens qui s'occupent des gens.
Et c'est ça qui nous fait vibrer dans la vie ? C'est le goût du risque ! Voilà.
Comment on apprend à s'occuper des gens qui s'occupent des gens ? Il ne faut jamais oublier de remettre les situations dans le cadre du travail. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment tendance à m'appuyer sur les tâches, à revenir à ce qu'on a à faire, pourquoi on le fait, et à essayer de sortir le plus possible, même si c'est impossible, de l'affectif. Voilà, c'est-à-dire que souvent, quand les choses sont compliquées, si on reprend et qu'on liste concrètement qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelles sont mes difficultés concrètes, en général, ça avance. Il suffit de regarder. Je pense qu'un administrateur, moi j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre, c'est un peu comme un acteur qui s'assoit à une terrasse de café, qui regarde passer les gens pour chercher leur personnage. C'est-à-dire que si on regarde, on comprend très vite que quelqu'un va mal parce qu'il a les épaules courbées, quelqu'un qui n'est pas à l'aise parce que les yeux se baissent en réunion. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup d'observations et puis ne pas avoir peur d'entendre des choses qui nous sont désagréables.
Je t'amuse, peut-être.
Tu parles tout le temps. On se croirait au théâtre. Ça distrait et puis c'est reposant.
Oh, Nathalie !
Mon travail, c'est d'être capable de dire si on prend cette décision technique, attends, ça va avoir un impact sur l'entrée du public. Attends, ça va avoir un impact sur la com. La com est déjà partie. Il faut qu'on appelle le secrétariat général. Enfin, c'est à moi de faire en sorte qu'une décision prise à l'intérieur d'un service parce qu'elle est nécessaire ait le moins d'impact possible sur les autres, ou en tout cas que on la prenne en bonne intelligence avec tout le monde. Et de la même manière, évidemment que je dis n'importe quoi, mais à la Croix-Laval, c'est inondé, il faut reterrasser le terrain. On va pas dire on annule parce qu'on peut pas monter un chapiteau. On va trouver des solutions pour le faire, ça a un coût. Et c'est faire en bonne intelligence avec les autres services en disant, voilà, on a cette problématique-là. Qui peut renier à des endroits sur son budget pour qu'on puisse mettre ça en place? Voilà, c'est essayer d'avoir une vision d'ensemble et un lien avec tous les services pour savoir où ils en sont tous, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer.
Couvrir, c'est ça que je ne saurais voir.
Ça va du problème complètement bénin à des problèmes plus lourds. Ça peut être des accidents. Comme je gère du personnel, je gère les accidents du travail. Il y a des accidents de travail qui ne sont pas drôles. Ça peut être, on est à l'aéroport, un artiste a perdu sa valise, il y a son costume de scène dedans. Ça va des trucs qui nous font rire à un moment donné et des situations qui sont plutôt dramatiques. ce que j'essaye de faire, c'est que travailler, c'est faire des erreurs. Et c'est accepter ça. Et après, la manière dont on manage ou on lie une relation avec les gens, c'est que une erreur n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas le dire. C'est ce qui fait qu'on vient travailler tranquillement.
Merci. Ah mon Dieu, c'était tellement incroyable ce moment avec vous. Je pense que je m'en rappellerai pendant longtemps. Merci mille fois d'avoir été là. Merci Fourvière.
Dans la partie artistique, c'est toute la contractualisation en amont, c'est-à-dire les négociations financières, les négociations sur... ils arrivent 3 jours avant, pourquoi vous arrivez 3 jours avant, pourquoi vous voulez partir 2 jours après. Enfin voilà, les problématiques de droits d'auteur, les problématiques des artistes étrangers qui viennent jouer en France. Voilà, est-ce que vous êtes détaché, est-ce que vous avez votre permis de travail, comment on s'organise pour que tout le monde puisse venir dans la légalité. Enfin voilà, et puis après, le soutien à l'équipe de prod qui s'occupe vraiment concrètement de l'accueil des artistes sur site. Elles sont vraiment les mains dans le cambouis et qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut trancher qui sont très légales. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est vraiment très bête. Hein, mais si je prends un train à 9h du mat et que j'arrive chez moi bah à midi, l'employeur ne te doit pas ton repas de midi parce que t'es arrivé à la gare à midi. Si je prends le train à 9h du mat mais que j'arrive chez moi à 13h30, eh ben oui, je te dois un repas de midi parce que voilà, et c'est des fois des choses aussi bêtes que ça.
Deux sprites, c'est bon.
Non, au bar, il y a une responsable bar qui fait tourner son bar et tout ça. Après, il peut lui arriver que l'année dernière, ses frigos disjonctent pendant la nuit, l'intégralité des glaces fondent, on les avait fait livrer la veille. Le prestataire de frigo dit que c'est pas de sa faute. Nos techniciens disent que l'électricité a pas été coupée. Enfin bref, ça prend une ampleur pas possible. Au bout d'un moment, c'est moi qui appelle et qui dit bon, ben, concrètement, j'ai perdu tant de marchandises. Clairement, vous êtes pas capable de me prouver que la faute, elle vient de nous. Et nous, on en a à peu près la preuve que c'est votre frigo qui marche pas. Donc comment on s'organise ? Le plus dur, oh punaise. Non, je crois que le plus dur, vraiment, c'est les jours de grande fatigue, parce qu'il y en a, où il y a un problème qu'on sait qu'on va mal gérer parce qu'on est fatigué. Et que quand ça arrive, on se dit, pas aujourd'hui, hier ou demain, mais pas aujourd'hui. C'est hyper dur parce qu'on y va et qu'en général, le lendemain, on se réveille en se disant, j'aurais pas dû faire comme ça. Ah, je le savais, j'étais trop fatiguée.
Me voilà seule. Ah, j'ai oublié d'enlever mon petit enfant. Me revoilà.
Alors, pendant les représentations, je suis un peu partout. C'est-à-dire que j'en profite un peu pour faire le tour des gens qui sont sur le site, pour aller voir un petit peu comment ça va. On a besoin de moi, beaucoup. Je suis sur site avec un toki et qu'on m'appelle quand on a besoin de moi. Alors ça peut être et pour aller accueillir quelqu'un au protocole parce qu'il n'y a personne qui est là, donc c'est moi qui y vais. Et parce qu'il y a, je dis n'importe quoi, un problème de TPE qui ne marche pas au bar ou parce que la personne d'astreinte derrière les pompes à bière n'est pas arrivée ou parce qu'il y a eu un accident et qu'il y a une personne chez les secouristes. Je suis où on me demande d'être. Ou alors, quand il pleut, je suis dans le backstage avec mon huissier pour constater la pluie.
Alors, on vient d'appeler la météo. On va prendre une petite queue d'orage, mais sans orage, c'est juste la pluie.
Oui, un huissier vient pour dire il pleut, on a appelé la météo. Il prend note de ce qui nous amène à prendre la décision d'annuler ou pas.
Le spectacle va commencer à l'heure. Il ne s'arrêtera pas. Ça durera au maximum 30 minutes.
En l'occurrence, ce qui nous intéresse dans le constat d'huissier, c'est en cas d'annulation. Mais il vient dire... Après, on peut annuler pour des milliards de raisons. Hein. L'artiste est en sécurité, mais il pleut tellement que les spectateurs ne le sont plus. Le spectacle est fragile, il y a un mur en décor du fond, il y a du vent, il peut tomber sur la tête des artistes. Je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de câbles électriques, des instruments très fragiles. Je ne sais pas, des instruments très anciens qu'on ne retrouvera jamais, qui ne peuvent pas prendre l'humidité. On peut ne pas annuler alors qu'il pleut à verse, des torrents d'eau, et annuler sous une pluie très fine. Ou annuler parce que c'est un spectacle qui n'est pas amplifié et que la voix humaine, contre la pluie, sous des ponchos, elle n'y arrive pas. Alors qu'un concert, le son passe. Enfin, pour plein de raisons, en fait, on peut annuler. Mais il faut un constat d'huissier qui fait foi devant les assureurs de la manière de... Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour ne pas annuler et qu'est-ce qui nous a conduit à l'annulation ? Je suis arrivée à faire ce métier. Moi, j'ai pas du tout grandi dans le milieu du théâtre. Voilà. J'habitais à la montagne, dans le sud-ouest, et je suis allée à l'école, je sais pas, je devais avoir 7 ou 8 ans, voir un spectacle de musique de Max Rongier. Je me souviens très très bien, je me souviens très bien du spectacle. J'avais trouvé ça chouette. Mais surtout, on a attendu le bus pour rentrer à l'école, et sont sortis les acteurs et les techniciens du spectacle dans le hall du théâtre. Et ils s'étaient attablés au bar, et ils parlaient entre eux. Et j'ai vu ces gens, et je me suis dit, je veux être là. Je veux faire partie de ça. Pas tellement de faire des spectacles et d'être sur scène, mais j'ai senti l'aventure humaine que c'était de travailler pour fabriquer des spectacles. Voilà, et puis un jour, je me suis retrouvée en art du spectacle à la fac, et on fait des spectacles, parce qu'on fabriquait des spectacles à la fac. C'était pas bien organisé, c'était n'importe quoi. Et d'un coup, j'ai dit, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'organisation, je vais m'en occuper. En fait, ça m'a plu, vachement, d'être à cet endroit-là dans l'aventure. J'ai toujours travaillé dans des endroits où il n'y a pas un métier plus important qu'un autre quand on fabrique un spectacle. Il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre les gens qui fabriquent un spectacle. Et je trouve que c'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, les gens qui vont donner un billet à la billetterie et qui vont bien accueillir les spectateurs, que la personne qui va servir une bière, que la comptable qui fait les payes de tout le monde, que tout le monde a sa place.
Moi, j'ai l'intention de passer une très très bonne soirée. Michel !
Et quand je suis arrivée... Comment je peux dire ? J'étais terrorisée, en vrai. c'est une énorme machine. C'est une énorme machine, donc ça fait vraiment peur. Après, la machine est tellement grosse que... Soit tu t'accroches au bastingage et tu continues le voyage, c'est parti, quoi. C'est un paquebot. Et soit t'arrives à rester sur le pont, soit... c'est chaud.
Est-ce qu'il y a des moussaillons ici ?
Je crois que ce que je dis souvent, mais j'en sais rien en fait. Faudrait demander aux gens parce que je pense que je dois avoir des tics de langage, mais c'est ça va tanguer. Là, ça va tanguer. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je dis assez souvent. Et pourtant, j'ai le mal de mer et je monte pas sur les bateaux. Mais en fait, j'aime bien le champ lexical marin parce que ça raconte aussi les nuits de fourvière, c'est-à-dire qu'on est confronté aux éléments. Qu'on pense souvent à la pluie parce que les spectateurs, ils ont vécu la pluie, mais que les montages sous des canicules sur de la pierre romaine, c'est juste très, très éprouvant aussi. Il y a un espèce d'endroit où l'association et une communauté humaine arrivent à vaincre des éléments qui, possiblement, pourraient nous arrêter. Et je crois que ça fait vraiment partie de l'ADN de la maison, de... On a passé cette tempête, on a réussi à jouer malgré ça, on a trouvé des solutions pour que des danseurs puissent répéter. Alors qu'il fait 40, on dresse des voilages, on met des ventilos, on essaye de faire de l'ombre. On est continuellement confronté aux éléments. Enfin, il y a un espèce de truc où la communauté des hommes, pour que cette chose-là advienne, parce que je pense que si on est là, c'est qu'on pense que ça change. En tout cas... possiblement, en tout cas pour nous, c'est un autre endroit de changer le monde. enfin, d'apporter notre pierre à l'édifice d'une société, parce que c'est pas anodin de faire des spectacles, c'est pas anodin de faire un festival de 2 mois dans une ville, c'est pas anodin d'être sur le champ de la pluridisciplinarité, et je crois que les gens qui sont là y croient vraiment profondément, et de se dire qu'on l'a fait, on a passé, et ben, je crois qu'il y a une vraie fierté que j'avais pas forcément quand on faisait du spectacle en intérieur, où on est très fiers d'avoir donné vie et donné corps à un spectacle, mais là en plus, il y a les éléments.
Veilleurs de nuit, un podcast produit par Les Nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.